VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. 4 personnes ont été tuées aujourd'hui dans 2 attentats suicides à la périphérie de Maïdougouri au Nigeria, le berceau du groupe islamiste Boko Haram. Dans le nord-est du pays, ont rapporté des membres des milices civiles. Le premier attentat a eu lieu dans le village de Mamaniti, à une quinzaine de kilomètres de la grande ville du nord-est. La seconde attaque a eu lieu à Manaeri, à 10 kilomètres à l'ouest de Maïdougouri. La lutte contre le terrorisme au Niger, le combat contre Boko Haram est pratiquement gagné, affirme le ministre de l'Intérieur dans une interview à VOA Afrique à Niamey. Pour Mohamed Bazoum, la plus grande inquiétude se situe maintenant au Mali. Il revient ici, vous allez l'entendre, sur la situation dangereuse le long de la frontière entre le Niger et le Mali.
Nous avons le Mali qui est une grosse menace susceptible de remettre tout en cause, parce que la différence entre Boko Haram et le Mali, c'est que Niamey, notre capitale, est à 200 km de la frontière malienne. Là, le front est beaucoup plus vif, les menaces sont plus prégnantes, et les risques sont plus grands. La situation ne s'améliore pas, au contraire. Ce n'est pas seulement notre frontière, malheureusement, c'est que c'est le centre du Mali, même la région de Mopti, où la situation s'est le plus dégradée. C'est une zone où vous n'avez pas l'aménagement, mais de façon générale, je pense que l'aménagement n'a pas été un modèle d'efficacité. C'est une opération de maintien de la paix. Or, nous ne sommes plus au Mali en situation de paix, malgré l'accord d'Alger. Et la zone entre Menaka et notre frontière à nous est truffée de terroristes qui ont quelques sanctuaires de ci, de là.
Le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum. Au Tchad, pas de nouvelles des 3 activistes des droits de l'homme arrêtés par l'Agence nationale de sécurité, l'ANS. Nadjo Keinaa totalise 19 jours de détention. Denga Manael, Nelly Versinis, 14 jours. Et Bertrand Solo Nganjei, lui, passe sa 11e nuit au violon ce lundi 24 avril, sans être présenté à la police judiciaire ni à un juge. Et leurs familles se disent très inquiètes de leurs conditions de détention. Dominique Yemtaba, oncle de Bertrand Solo Nganjei, dénonce une situation intenable.
Bertrand a été enlevé, conduit à un poste de police. Il est quand même aberrant pour nous qu'un citoyen puisse être dans les locaux de la police et qu'il disparaisse. Alors, ce qui nous conduit maintenant à exiger sa libération sans condition. Si jamais il arrive quelque chose à Bertrand, nous tenons pour responsables les autorités puisqu'il est parti des locaux de la police. Et Bertrand a une santé fragile et depuis qu'il a disparu, nous n'avons ni accès à lui, il n'a jamais eu accès à un avocat pour pouvoir aussi plaider son sort par rapport à sa situation sanitaire.
Incertitude à Kananga, au Kasaï central, en RDC, malgré la restitution du corps du chef Kamuina Nsapu par le gouvernement et la désignation du nouveau chef. Ces 2 derniers développements ne semblent pas devoir briser le cycle de la violence entre miliciens et les militaires FRDC. La société civile et la population s'inquiètent de cette situation, nous dit notre correspondant dans la région Naval Mabila.
Kananga, Kasaï central, c'est l'horreur absolue depuis plusieurs mois. Tout n'est pas clair jusqu'à ce jour malgré la restitution par le gouvernement central du corps du grand chef Kamuina Nsapu à sa famille ainsi que l'entronisation de son remplaçant. Là, nous sommes dans la commune de Kananga où la peur et la violence est devenue un mode de vie. C'est de là que nous avons joint Madame Nathalie Kambala de la société civile qui tente de nous expliquer les contours de la situation incertaine.
On a remis le corps, il paraît qu'on a déjà enterré. On a même dit qu'on va annoncer le jour où les deux sera officiel. C'est vrai, il y avait encore une peur dans la population pour dire que voilà, l'autre qui est en train de venir, est-ce qu'il sera vraiment accepté par la population? Mais c'est passé comme ça, on a senti que la population avait besoin de la paix, que ce soit des mises en scène. Non, nous, la population n'a pas de ça. Nous, on fait confiance à la famille régnante, on fait confiance à l'État qui voulait la paix, surtout que cette paix ici, nous la voulons aussi pour qu'on vive normalement comme les autres amis des autres provinces. On n'a pas besoin d'entendre de coups de balle, évidemment, ça continue malgré que ces événements s'est passé. Mais hier, avant-hier, il y a toujours des balles qui ont crépité, ça et là. Il y a des petites compréhension. Depuis la naissance de cette incursion, c'est la famille régnante de Kamuina qui avait commencé. Maintenant, c'est tout le territoire du centre kassaïen. Et en dehors de ça, tous les grands kassaïens sont touchés. Mais à Tchikapa, pas là, qu'est-ce qu'il revendique? Est-ce qu'il continue à revendiquer le corps? On ne sait pas. Il y a déjà un autre chef coutumier.
L'incertitude et la méfiance est totale des visios au sein de la population de Kananga qui est très fatiguée des atrocités et donne l'espoir à une paix à venir, comme s'exprime Selbert Kiungu, la société civile et citoyen journaliste.
Toutes les voies qui peuvent amener à la paix sont les bienvenues et la remise du corps, l'élimination du nouveau chef, dans une certaine mesure, la population salue cette initiative, mais souhaite que ce ne soit pas du mascarade, le montage et des simples mises en scène. Donc, on est lassé, fatigué et essoufflé par cette guerre dont on ne connaît pas très bien les tenants et aboutissants.
À l'Institut de recherche en droit de l'homme, IRDH, basé à Lubumbashi, nous avons joint Maître Tshiswaka qui pense que la solution ne passera que par l'organisation d'une conférence sur les Kassai et l'implication des causes tribunaux.
D'abord, il faudrait qu'il puisse essayer de faire une approche réparatrice en faveur des victimes et des parents des victimes. Non seulement attendre la procédure judiciaire, il faudrait qu'on puisse avoir une conférence autour de la question Kamunansapu pour qu'on résolve les problèmes avec la population locale et les notables politiques. À défaut, nous pouvons avoir d'autres réactions dans d'autres provinces.
Entre-temps, à Kananga et ses environs, c'est l'incertitude qui continue. La peur et la désolation pourchassent les paisibles citoyens où chaque jour qui passe, c'est une éternité de violence. Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VO Afrique, 24h sur 24.
Le vaccin anti-paludique le plus avancé, mais à l'efficacité limitée, va être testé à grande échelle au Kenya, au Ghana et au Malawi, a annoncé aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé, qui ambitionne d'y vacciner au moins 360 000 enfants. Au total, entre 2018 et 2020, l'Afrique est de très loin le continent le plus touché par le paludisme, comptant pour 92% des 429 personnes tuées dans le monde en 2015 par cette maladie transmise par des moustiques et également appelée malaria. Selon des chiffres de l'OMS, les enfants de moins de 5 ans représentent plus des deux tiers de ces décès. Henri Van Breda a accusé d'avoir massacré ses parents et son frère à la hache dans une résidence UP en Afrique du Sud, a plaidé non coupable aujourd'hui à l'ouverture de son procès pour meurtre devant un tribunal du Cap. En janvier 2015, les corps de Martin, Teresa et Rudy Van Breda avaient été retrouvés dans leur maison de Stellenbosch, dans le sud de l'Afrique du Sud, manifestement assassinés à coups de hache. Ce procès suscite un vif intérêt en Afrique du Sud, peu habitué à la criminalité entre les habitants de ces quartiers huppés. Une journaliste d'une télévision marocaine a été suspendue pour avoir utilisé à l'antenne l'expression « Sahara occidental », indique un communiqué de la chaîne Medi One TV. Soumia Dougui, responsable de la production et de la présentation de l'émission Afrique Soir, diffusée en direct vendredi soir, a utilisé l'expression « Sahara occidental » pour faire référence aux provinces du sud du royaume au lieu du terme « Sahara marocain ». A expliqué ce communiqué publié dimanche soir.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Hors du continent, en France, 29 personnes ont été placées en garde à vue après des manifestations antifascistes à Paris dimanche soir à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle. 6 policiers et 3 manifestants ont été légèrement blessés lors de ces heures au cours desquelles 143 personnes avaient été interpellées selon la préfecture. Plusieurs centaines de jeunes antifascistes se sont réunis dans la capitale contre le centriste Emmanuel Macron et la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen qualifiée pour le second tour le 7 mai. Le chef du Pentagone, Jim Mattis, est arrivé aujourd'hui à la mi-journée à Kaboul pour une visite non annoncée de quelques heures, sa première visite dans le pays depuis son entrée en fonction. 8400 soldats américains sont déployés. Le secrétaire américain à la défense en tournée au Moyen-Orient et en Afrique arrive en Afghanistan où il a servi par le passé, une douzaine de jours après que l'armée américaine a largué la plus puissante bombe de son arsenal conventionnel sur des positions souterraine du groupe État islamique dans l'est de l'Afghanistan. Et puis, une université nord-coréenne a confirmé l'arrestation d'un ressortissant américain qui y enseignait, portant à 3 le nombre d'Américains détenus dans ce pays à un moment où de fortes tensions bilatérales règnent. Kim Sang-duk, également appelé Tony Kim, a été arrêté samedi dans l'aéroport de la capitale alors qu'il s'apprêtait à partir après avoir enseigné pendant plusieurs semaines à l'Université des sciences et de la technologie de Pyongyang, a dit l'établissement. Jean-Roger Bion, le prochain journal, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.